Radio Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Pays charnière entre Europe et Moyen-Orient, la Turquie développe depuis 20 ans une diplomatie originale à vocation régionale. Toujours à la recherche de sa cohésion, le pays se construit des voies bilatérales pour peser sur l'ordre politique moyen-oriental, notamment sur la question kurde. Une diplomatie qui se retrouve parfois prisonnière de la situation politique intérieure du pays, comme on l'a vu récemment dans ses relations avec certains pays européens, Pays-Bas, Allemagne, Autriche et Bulgarie notamment. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Que ce soit face à l'Allemagne récemment ou à l'Iran dans le conflit syrien, la diplomatie turque est à la manœuvre, comme elle l'est dans ses rapports nouveaux avec la Russie ou la Chine, ou dans sa façon de développer des relations bilatérales étroites avec chaque pays arabe. Bonjour Jana Jabour.
Bonjour Eric.
Docteur en sciences politiques, enseignante à Sciences Po Paris et à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, vous publiez aux éditions du CNRS « La Turquie, l'invention d'une diplomatie émergente ». Alors, la Turquie est un pays charnière, on le sait, entre l'Orient et l'Occident, et aussi un pays qui compte depuis longtemps entre ces deux parties du monde. Pourquoi parler de diplomatie émergente ?
Oui, alors justement, ce livre rompt un peu avec les analyses traditionnelles de la diplomatie et de la politique étrangère turque dans les années 2000. Finalement, aujourd'hui, lorsqu'on lit la littérature occidentale, l'argument qui est avancé pour expliquer la politique étrangère turque, c'est de dire que c'est une politique étrangère néo-ottomane ou pan-islamiste qui vise justement à restituer une sorte de sphère d'influence de la Turquie dans les territoires ayant jadis fait partie de l'Empire ottoman. Et généralement, on met ça en parallèle avec le parti AKP. On explique le néo-ottomanisme turc par l'accès au pouvoir et le maintien au pouvoir du Parti de la Justice et du Développement, qui est un parti issu de l'islam politique. Or justement, j'essaie dans ce livre de rompre avec ces analyses-là et d'expliquer que pour bien comprendre la diplomatie turque des années 2000, il faut appliquer un nouveau paradigme, un nouveau concept naissant dans la science politique, dans la discipline de sciences politiques, qui est celui des puissances moyennes émergentes et de leur quête de statut sur la scène internationale. En gros, ce qu'on voit, c'est que dans la décennie 2000, et pour la première fois de son histoire, la Turquie acquiert le rang de puissance moyenne émergente selon les critères de la Banque mondiale. C'est-à-dire, c'est un pays de taille moyenne, en position intermédiaire entre le Nord et le Sud, un pays dont l'économie est dynamique, ancrée dans la mondialisation, un pays avec un PIB par habitant qui est supérieur à 10 000 dollars, et surtout, et c'est là le critère le plus important, c'est un pays qui entend convertir sa puissance économique en un pouvoir et en une puissance politique, c'est-à-dire en un droit de participation à la gestion des affaires du monde. Donc aujourd'hui, la diplomatie turque est d'abord et avant tout une diplomatie de quête de statut, de reconquête de statut. Et c'est pourquoi c'est une diplomatie qui est basée sur une politique d'affirmation de soi très aiguë. En gros, ce que les Turcs veulent, c'est de reprendre une place sur la scène internationale qui est plus avantageuse et qui reflète un peu leur grandeur passée, leur gloire passée.
Vous écrivez qu'en fait, la diplomatie turque a tourné le dos à la diplomatie occidentale traditionnelle.
Pas du tout. En fait, ce que j'explique, c'est que finalement, aujourd'hui, la diplomatie turque, c'est une diplomatie de grand écart. C'est-à-dire qu'on va développer des relations avec tous les acteurs du système international, voire avec des acteurs antagonistes du système international. C'est-à-dire, on va maintenir des relations avec les États-Unis, avec l'Union européenne, on va rester membre de l'OTAN. Par contre, en même temps, on va développer des relations amicales avec l'Iran, avec le Hamas, avec le Hezbollah et avec le Moyen-Orient. Et c'est justement le propre des puissances moyennes émergentes que de parler à tout le monde. Je me souviens très bien de cette déclaration faite par Lula au début des années 2000 dans laquelle il disait « Je suis le seul leader au monde qui peut, dans une même journée, serrer la main à Obama et embrasser Ahmadinejad ». Et c'est pareil aujourd'hui pour les Turcs. Par contre, pour rebondir sur ce que vous disiez, Eric, effectivement, aujourd'hui, la diplomatie turque se distingue de la diplomatie occidentale en ce sens qu'elle va employer des stratégies et des instruments novateurs que les puissances occidentales n'utilisent pas. Parmi ces stratégies, c'est le soft power, l'insistance sur le soft power, donc l'influence culturelle surtout, ce que j'appelle le pouvoir de séduction. L'insistance aussi sur un nouveau discours politique et civilisationnel qui est basé sur la critique du système mondial actuel, de l'ordre mondial actuel. Donc on va critiquer aujourd'hui les inégalités politiques et économiques dans l'ordre mondial et proposer un nouveau système international qui serait plus égalitaire et qui serait plus représentatif des puissances du Sud. Et puis, comme je viens de le mentionner aussi, une des stratégies, c'est ce grand écart. C'est la capacité à nouer des relations avec tout le monde, ce que les puissances occidentales ne font pas.
En quoi la situation intérieure de la Turquie influence sur cette politique et notamment la question kurde ?
Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est que au début des années 2000, l'élite AKP, l'élite de la justice et du développement en Turquie, a tenté d'engager un processus qu'on a appelé le processus d'ouverture aux Kurdes. C'est-à-dire, c'est un processus qui visait tout simplement à régler la question kurde à l'intérieur du pays pour permettre à la Turquie de se débarrasser d'une épine dans le dos et pour permettre à ce pays de se projeter à l'extérieur. Parce que finalement, on ne peut se projeter à l'extérieur de ses frontières que si la nation est en paix avec elle-même. Même à l'intérieur. L'AKP a réalisé cela et il a voulu se débarrasser de ce talon d'Achille qu'est la question kurde. C'est pourquoi on a donné énormément de concessions à la minorité kurde du pays. On a reconnu des droits, certains droits culturels et identitaires à la minorité kurde. Par exemple, on a ouvert une chaîne télé en langue kurde. On a donné aux Kurdes le droit d'enseigner et de suivre des enseignements à l'école en langue kurde. Et cela, justement, a permis dans les années 2000 d'apaiser un peu la nation turque et de lui permettre de se projeter à l'étranger. Or, avec le début des révolutions arabes, cette question kurde, ce processus de résolution de la question kurde va être arrêté. Pour deux raisons. D'abord, on voit que dans l'été 2014, il y a eu le massacre de Kobané, on se rappelle très bien, en Syrie, où les Kurdes syriens ont été massacrés par Daesh. Or, la Turquie reste silencieuse face à ce massacre pour des raisons diverses. Et donc, les Kurdes turcs vont très mal percevoir la position de leur pays. Et c'est pourquoi le PKK va reprendre la lutte armée contre le gouvernement AKP. Et une autre raison, peut-être, de l'échec de ce processus d'ouverture aux Kurdes, c'est que la révolution syrienne, la crise syrienne a ouvert aux Kurdes une fenêtre d'opportunité. Finalement, le PKK s'est dit, on n'a plus besoin de négocier avec le gouvernement AKP puisque aujourd'hui, on peut utiliser la Syrie comme une arrière-base pour lutter, reprendre les armes contre l'État turc. Donc, il y a eu une convergence de facteurs qui ont porté un coup d'arrêt à ce processus.
Qui explique aujourd'hui que la diplomatie développée, ou la politique militaire, en tout cas développée par la Turquie en Syrie aujourd'hui, est finalement assez curieuse, voire dangereuse dans la mesure où l'armée turque est prête peut-être à faire le coup de feu avec des rebelles syriens qui sont soutenus par les États-Unis.
Oui, alors aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que les Turcs sont habités par ce que j'appellerais le syndrome de Sèvres. Le syndrome de Sèvres, c'est la peur que le territoire turc va être désintégré, comme ce fut le cas lors du traité de Sèvres de 1920, où l'Empire ottoman, le territoire de l'Empire ottoman a été désintégré. Donc, la vraie peur, la vraie hantise des Turcs, c'est que les Kurdes puissent déclarer leur État autonome. Et donc, aujourd'hui, la priorité de la politique étrangère turque, c'est de lutter contre l'établissement d'une zone kurde autonome en Syrie, d'où l'opération Bouclier de l'Euphrate qui a été lancée en août 2016. En gros, aujourd'hui, l'objectif ultime de cette politique, c'est d'établir une zone de sécurité à la frontière turco-syrienne, une zone de sécurité de 5000 km² qui puisse prévenir justement la déclaration d'un État kurde autonome.
Alors, à l'inverse, est-ce que la politique et la diplomatie développée par la Turquie aujourd'hui a une incidence sur le plan intérieur pour le Turc de base ?
Oui, évidemment. Alors, d'abord, il faut voir que aujourd'hui, la crise syrienne a provoqué un durcissement du régime à l'intérieur. Finalement, la dérive autoritaire du président Erdogan ne peut être expliquée que si on la place dans un contexte plus large qui est celui de la crise syrienne. Aujourd'hui, la Turquie se sent encerclée à ses frontières et c'est pourquoi le président concentre les pouvoirs à l'intérieur. Il faut voir aujourd'hui aussi que les Turcs regardent ce qui se passe dans la région. Ils ont peur. Ils voient que les États arabes sont en déliquescence. Ils voient que c'est le cas chaos généralisé. Et donc, ils demandent un président fort. C'est pourquoi aujourd'hui, la majorité de la population veut voter oui pour le référendum, au référendum du 16 avril pour la présidentialisation du régime. Parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, la Turquie fait face à de nombreuses menaces et que donc, il faut consolider le président, il faut lui donner les prérogatives pour protéger son pays.
Jana Jabour, à l'issue de votre travail de recherche, quel avenir pensez-vous que puisse avoir la Turquie, la diplomatie turque?
Alors, certainement, aujourd'hui, la diplomatie turque rencontre des problèmes et des obstacles, que ce soit à l'intérieur de la région du Moyen-Orient ou sur le plan international. À force de se poser comme une puissance moyen-orientale, la Turquie s'est faite exclure aussi par l'Europe. En revanche, je pense que cette diplomatie turque a l'intelligence de rebondir en permanence aux obstacles à laquelle elle fait face. Finalement, elle se réinvente en permanence. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la Turquie forge de nouvelles alliances avec de nouveaux pays, par exemple le Qatar et l'Arabie Saoudite, pour faire face aux menaces qui la guettent dans la région. Ce qu'on voit aussi, c'est que en dépit des difficultés qu'elle rencontre dans la région au niveau de ses relations avec les États arabes, la Turquie maintient néanmoins une présence au niveau sociétal au Moyen-Orient. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les années 2000, la Turquie a offert des bourses d'études aux étudiants arabes. Or, justement, ces étudiants, une fois diplômés de Turquie et une fois rentrés chez eux, forment aujourd'hui ce qu'on appelle des associations d'amitié pour la Turquie. Donc, c'est des associations qui sont présentes aujourd'hui au Liban, en Égypte, en Jordanie, en Syrie. Et ce sont des associations dont le but est de promouvoir la Turquie sur le plan de leur société, donc de la société à laquelle ces individus ces étudiants appartiennent. Donc, par exemple, on va organiser des séances de projection de films turcs, on va organiser des tables rondes, des conférences autour de la Turquie pour justement créer un consensus dans leur pays en faveur de la Turquie.
Merci Jana Jabour, enseignante à Sciences Po Paris et aussi à l'Université de Saint-Joseph à Beyrouth.
Merci Eric.
Et je renvoie à votre livre « La Turquie, l'invention d'une diplomatie émergente ». C'est publié aux éditions du CNRS.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Selda Bakkan est une guitariste, auteur-compositeur et chanteuse turque. Ses prises de position et son militantisme lui ont valu des difficultés avec les autorités turques tout au long de sa carrière, comme avec ce morceau « You You Soyanlara », extrait de son dernier album.
Uzaktan yakından yuh çekme bana sana senin gibi gibi baktım ise yuh efendi görünü bütün insana hakkın kullarını yıktım ise yuh 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 soyanlara soyup kaçıp doyanlara insana kıyanlara yuh nefsine uyanlara efendim bey ve amele bey ve amele fakir soymak yakışır mı kemale rüşveti hak bilip bilip her dakika hile yapıp yapıp inkar inkar etti isem yuh 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 soyanlara soyup kaçıp doyanlara insana kıyanlara
La chanteuse turque engagée Selda Bakkan sur RFI.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, il est question d'un rapprochement américano-saoudien à l'occasion de la visite du vice-prince héritier aux États-Unis.
Oui, et une visite d'autant plus importante que le prince Mohammed bin Salman est l'homme fort d'Arabie. Alors, c'est le fils du roi Salman, mais il est aussi vice-premier ministre et ministre de la Défense. Et c'est lui qui a a déclenché la guerre contre les Houthis au Yémen et qui a fait de l'Arabie le plus grand importateur d'armes au monde en 2016. Alors, sous sa direction, le budget militaire saoudien a explosé pour devenir le troisième au monde, juste après les États-Unis et la Chine. Ce n'est donc pas un hasard si les journaux indiquent que la visite du prince au Pentagone a été un franc succès, un succès d'autant plus grand qu'aujourd'hui, Riyad et Washington ont pour ennemi commun Téhéran. Sous Donald Trump, fini le rapprochement entamé par le président Barack Obama avec l'Iran. Pour l'Arabie, gardienne des lieux saints de l'islam, Donald Trump est donc un ami.
D'information à suivre dans nos journaux d'information. Dans la presse israélienne, Michel Paul, des frictions à la frontière entre Israël et la Syrie et Pax Americana au Proche-Orient.
Une tension qui fait les titres de la presse électronique israélienne. Les commentateurs font remarquer que c'est la première fois que des missiles syriens S-200 de fabrication russe sont tirés contre des chasseurs bombardiers israéliens et aussi que c'est la première fois qu'un missile antimissile Arrow est tiré depuis Israël vers des cibles syriennes. Eric, il faut souligner, comme le font plusieurs commentateurs, que ce système antimissile Arrow a été conçu pour contrer des menaces stratégiques et cela laisse entendre que tout n'a pas été dit sur cet incident. Assad, proclame un éditorialiste, tente de changer les règles du jeu. Et dans la presse israélienne, de nombreux commentaires aussi sur la visite, la première visite de l'émissaire américain Jason Greenblatt. Selon le quotidien Haaretz, Greenblatt a surpris tout le monde, à la fois les Palestiniens et les Israéliens, et le journal souligne que le message est clair. Israël doit montrer sa volonté de progresser sur le chemin de la paix, notamment sur la question des colonies de peuplement. La presse met également en avant une déclaration de Tamir Pardo, l'ancien chef du Mossad, le service secret israélien. Il n'y aura pas de négociation régionale sans avancer dans les pourparlers entre Israéliens et Palestiniens.
Et dans les journaux israéliens, encore Michel, une peine allégée pour un député arabe de la Knesset.
Oui, Bazel Ratas, le député de la liste arabe unifiée, filmé en train de remettre à des détenus sécuritaires des téléphones cellulaires, accepte de plaider coupable, en échange de quoi, après sa démission volontaire du Parlement israélien, il encourra une peine de prison maximale de 2 ans. 2 ans seulement, écrivent plusieurs commentateurs, qui estiment que cet accord provoque la colère de la droite israélienne.
Que reste-t-il des printemps arabes ? Telle est la question que se posent de nombreux éditorialistes arabes, Alexandre.
Oui, une question qui a été déclenchée par l'annonce par le parquet de la libération de l'ex-président égyptien Hosni Moubarak et qui suscite des réactions contradictoires. Alors, un journal comme l'égyptien Al-Maqal commente avec amertume cette libération qui, selon lui, met symboliquement fin au rêve de réforme démocratique qui avait secoué le monde arabe. Pour la presse du Golfe, c'est au contraire la fin d'une chimère qui a plongé la région dans le chaos. Si certains éditorialistes pensent que ce n'est que partie remise, d'autres estiment que ce qu'ils qualifient de complot du président Barack Obama a échoué.
Et à la une encore, Alexandre, les élections à la tête de la CAF, la Confédération africaine de football.
Oui, des élections qui se sont déroulées en Éthiopie et où Issa Hayatou, l'indéboulonnable président de la CAF depuis 1988, a perdu face au président de la Fédération malgache de football, Ahmad Ahmad. Un résultat que nul ne semblait attendre, mais pour lequel beaucoup œuvraient, indique la presse. Alors les journaux expliquent que Hayatou n'a pas vu les nuages qui s'amoncelaient contre lui. Alors d'abord, les pays d'Afrique anglophone estimaient qu'il favorisait trop les francophones auxquels il a confié par exemple l'organisation des 3 prochaines Coupes d'Afrique des Nations. Le nouveau président de la FIFA, le Suisse Gianni Infantino, qui n'appréciait pas Hayatou, qui avait mené campagne contre lui, et puis, cerise sur le gâteau, il était poursuivi pour corruption en Égypte, siège de la Confédération africaine de football.
Et votre photo pour conclure, Michel Paul ?
Eh bien, c'est la photo des 2 directeurs de la société israélienne Mobileye, qui développe notamment une voiture autonome. Elle a été rachetée par Intel pour 15 milliards 300 millions de dollars. Une victoire pour nous tous en Israël, titre un quotidien. Les 2 directeurs vont empocher 1 milliard de dollars chacun.
Merci Michel, merci Alexandre et merci à François Porcheron qui réalise cette émission chaque semaine. Vous pouvez réécouter Orient Hebdo sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous évoquerons l'édition au Maroc puisque ce pays est l'invité d'honneur du Salon du Livre Paris, un salon auquel participera d'ailleurs notre invité de cette semaine, Jeanna Jabour, lors d'une table ronde intitulée Donald Vladimir Recep Tayyip, la nouvelle vague politique. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.
Idées.